Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous comme tous les jours à cette heure-ci. RFI vous donne la parole. Dans un instant, ce sont vos questions à la rédaction. C'est votre moment privilégié avec les journalistes d'RFI, nos experts ici présents à Paris, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. C'est l'occasion, vous le savez, de nous poser toutes vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Un seul numéro de téléphone pour nous rejoindre, 33 9 693 693 70. Évidemment, si vous êtes en France, vous composez le 09 693 693 70. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat, et nous parlerons tout à l'heure de cette dernière décision du président ivoirien. Alassane Ouattara veut rendre l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans, et ce, dès la rentrée prochaine, donc dès le mois de septembre. C'est vrai que c'est un énorme chantier qui attend le pays. En tout cas, le gouvernement s'engage à recruter plus de 5000 enseignants et à construire 4500 classes, mais la réussite de ce projet dépendra surtout des familles. Il va falloir les convaincre qu'il est plus important pour leurs enfants d'aller à l'école que de travailler, par exemple, dans les plantations de café ou de cacao. Alors, comment peut-on relever un tel défi? Dites-nous quelles sont les initiatives prises dans votre pays pour encourager la scolarisation. Je vous rappelle qu'il y a 15 ans, 164 pays s'engageaient à promouvoir l'enseignement primaire pour tous. L'occasion, donc, aujourd'hui, en 2015, de dresser un état des lieux. On attend vos témoignages, 33 9 693. 693 70. Place donc aux questions. D'abord, question sur la lutte contre le terrorisme en Tunisie. Saint-Marc nous appelle de Lomé. Bonjour Saint-Marc.
Bonjour Gomez et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous êtes au Togo, on vous écoute.
Ok, au lendemain des attentats de Tos, nous avons appris sur RFI que la Tunisie a décidé unilatéralement diriger un mur à sa frontière avec la Libye. À ce sujet, j'ai deux questions. La première est de savoir quelle est la position aussi bien des deux gouvernements libyens que de la position et que de la communauté internationale sur ce projet imminent.
Alors, on va déjà répondre à cette première question, Saint-Marc, avec David Thompson, journaliste à la rédaction Afrique des RFI. Bonjour David.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. La Tunisie, c'est un pays que vous connaissez bien. Vous avez longtemps été correspondant sur place. Alors, rappelons en quelques mots, il s'agit d'un mur de 2 mètres de haut, un mur de sable qui sera construit sur une partie de la frontière de la Libye. Et l'objectif, évidemment, c'est d'endiguer la menace terroriste.
C'est l'objectif. D'ailleurs, ce mur a été décidé juste après l'attentat de Sousse, qui a fait 38 morts, dont 30 touristes britanniques. Effectivement, un mur de sable d'environ 2 mètres de haut, avec des cratères remplis d'eau tout du long de 200 km de la frontière. C'est à peu près la moitié de la frontière avec la Libye. L'objectif, c'est d'empêcher les passages de djihadistes qui partent s'entraîner en Libye, qui reviennent en Tunisie, et les passages d'armes également de la Libye vers la Tunisie.
Il y aurait en ce moment entre 1000 et 1500 Tunisiens présents en Libye. Comment les autorités libyennes ont-elles réagi? Alors, quand on parle d'autorités libyennes, en ce moment, il y a deux gouvernements, deux parlements. Commençons d'abord par le gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. A-t-il réagi?
Alors ce gouvernement, donc le gouvernement de Tobrouk Al-Beida, à l'est de la Libye, il est reconnu par la communauté internationale, il n'a pas réagi. En revanche, le gouvernement de Tripoli, qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, s'est plaint très vivement, publiquement, de la construction de ce mur. Le gouvernement de Tripoli déplore, explique ne pas avoir été consulté, dénonce une décision unilatérale de Tunis, mais il faut rappeler que entre les deux capitales, le courant ne passe plus très bien. Tunis a récemment fermé son consulat parce que 10 de ses diplomates avaient été kidnappés littéralement par des hommes en armes qui demandaient, en fait, qui voulaient faire pression sur le gouvernement de Tunis pour libérer l'un des chefs de la coalition de milices Fajr Libya, qui a mis en place ce gouvernement de Tripoli par la force et qui avait été arrêté dans une affaire de terrorisme en Tunisie justement.
Ah, le gouvernement de Tripoli qui dénonce même une agression contre la souveraineté libyenne. La communauté internationale a-t-elle réagi à la construction de ce mur?
Alors, pas de réaction vraiment officielle du côté de la communauté internationale, mais ce qui est sûr, c'est qu'aux yeux de la Grande-Bretagne, en tout cas, ce qui a été particulièrement touché par l'attentat de Sousse, ce mur n'est pas la solution. D'ailleurs, la Grande-Bretagne n'a pas changé son appel aux voyageurs, consigne très claire à quitter la Tunisie, à ne pas se rendre dans ce pays, parce que la Grande-Bretagne estime que le risque d'attentat est très probable aujourd'hui en Tunisie. Donc, de l'avis des experts et de la communauté internationale, ce n'est pas ce mur qui va changer la situation sécuritaire en Tunisie.
Saint-Marc, vous aviez une seconde question.
Oui, effectivement, j'aimerais savoir, en dehors de l'état d'urgence qui s'inscrira bientôt dans un mois, quelle autre disposition prend la Tunisie pour pouvoir lutter contre le terrorisme ?
Alors, mise en place d'abord de l'état d'urgence, effectivement, pour une durée de 30 jours. On rappelle en deux mots en quoi consiste l'état d'urgence ?
Alors, l'état d'urgence donne des pouvoirs d'exception, des pouvoirs exceptionnels au pouvoir exécutif, au gouvernement, au président, permet d'interdire certaines manifestations, permet aussi à l'armée d'avoir des rôles de police pour résumer.
Ouais, et certaines associations d'ailleurs craignent de potentielles dérives liberticides, comme à chaque fois évidemment qu'un gouvernement met en place l'état d'urgence. Par ailleurs, des mosquées ont également été fermées.
Alors effectivement, l'une des mesures phares, si j'ose dire, annoncées après les attentats de Bardo et de Sousse, c'est la fermeture de 80 mosquées qui sont dites hors de contrôle du gouvernement. En fait, en 2013, les autorités tunisiennes étaient arrivées à une situation où 10% des mosquées tunisienne était contrôlée par le mouvement djihadiste et échappait totalement au contrôle du gouvernement. 10% des mosquées, c'est 500 lieux de culte, dont des mosquées très importantes sur 5000 environ que compte la Tunisie. Aujourd'hui, les autorités estiment qu'une centaine échappent encore à leur contrôle. Donc le mouvement de récupération est lancé, mais c'est vrai que ça prend du temps, ça suscite des réserves évidemment et des résistances de la part de certains fidèles. Et puis là aussi, les experts estiment que c'est peut-être même trop tard aujourd'hui, puisque la grande majorité des djihadistes armés tunisiens sont partis à l'étranger. Ils sont, selon les derniers chiffres de l'ONU, environ 4000, 3000 selon les chiffres officiels en Tunisie, en Irak et en Syrie. Ouais. Vous l'avez dit, 1000-1500, on ne sait pas très bien, en Libye. Et ces gens-là menacent de revenir et d'être frappés en Tunisie.
Ouais, le dispositif mis en place par les autorités tunisiennes après l'attentat de Sousse vous semble suffisant, vous qui connaissez bien le milieu djihadiste ?
Alors, effectivement, ça c'était l'autre mesure importante annoncée par le ministre de l'Intérieur, le renforcement de la sécurité sur les plages. Plusieurs milliers de policiers sont censés être déployés sur les plages tunisiennes. Le ministre de l'Intérieur lui-même, quelques jours après l'attentat de Sousse, a pu constater que ce dispositif mettait du temps à se mettre en place. Beaucoup d'hôteliers déplorent qu'il n'y ait toujours pas de policiers sur leur plage. Donc, ce dispositif, pour l'instant, le problème des forces de sécurité tunisiennes, c'est un problème opérationnel. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une intervention depuis 2012, quasiment tous les mois, il y a des interventions de police contre les djihadistes. Et à chaque fois, les forces de police tunisiennes enregistrent des pertes assez importantes. Ils perdent des hommes. Une centaine d'agents ont été tués en un peu moins de 3 ans. Donc, le problème de la police tunisienne, c'est avant tout un problème opérationnel.
Merci David Thompson d'être venu répondre à Saint-Marc qui nous appelait de Lomé. Il est 10h18 à Paris. Ce sont vos questions à la rédaction. Des questions maintenant sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire menacée par des djihadistes maliens. Bonjour Ignace.
Oui, bonjour Juan.
Vous nous appelez d'Abidjan, on vous écoute.
Oui, j'ai une question. Récemment, l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire a voté une loi pour lutter contre les djihadistes qui ont été signalés dans le nord du pays. Et j'ai deux questions à ce sujet. La première question, c'est de savoir quel est le contenu de cette loi qui a été votée.
Oui.
Et la deuxième question... Est-ce que le pays a réellement les moyens pour faire appliquer cette loi, surtout que ces derniers temps, des lois ont été votées, mais n'ont pas pu être appliquées avec efficacité?
Oui, en tout cas, cette loi antiterroriste a été adoptée à l'unanimité par les députés, une loi qui est censée faire face à la menace du groupe en sardine, ce groupe djihadiste qui sévit au Mali voisin et qui menace de multiplier les attaques en Côte d'Ivoire. Bonjour Anna Sylvestre.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, vous êtes la correspondante d'RFI à Abidjan. Que stipule concrètement cette loi antiterroriste ?
Eh bien, cette loi, d'abord, elle prévoit des peines de prison, hein, 10 à 20 ans de détention pour terrorisme, ou plus exactement pour le recrutement ou l'affiliation à un groupe criminel en vue de participer à la commission d'actes terroristes. Mais elle prévoit aussi que des suspects puissent être interrogés en garde à vue pendant 2 fois 96 heures, c'est-à-dire 8 jours, et ça sans l'autorisation d'un juge, uniquement à la demande du parquet. Le parquet, qui n'est pas indépendant, je vous le rappelle, il est statutairement sous la tutelle du pouvoir politique. Le texte, il prévoit encore la possibilité de perquisitionner 2 jours comme 2 nuits, alors que jusque-là, ça n'était possible que pendant la journée. Enfin, il est désormais permis aux services de renseignement de faire des interceptions de correspondances. Plus concrètement, il s'agit d'écouter des conversations, de lire des emails, par exemple, ou d'intercepter du courrier, Juan.
Ouais, à noter que la rapidité tout de même avec laquelle cette loi antiterroriste a été votée, puisqu'elle a été adoptée seulement 3 jours après les menaces du groupe en Sardine, c'est dire si ces menaces sont prises très au sérieux par les autorités ivoiriennes. En tout cas, Anna Sylvestre, certaines associations de défense des droits de l'homme craignent de possibles dérives liberticides avec cette nouvelle loi.
Oui, tout à fait. Hein. Vous le rappeliez, le texte a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, mais ce résultat de vote, il cache des interrogations de la part de certaines organisations, mais aussi de députés, d'ailleurs, hein, lorsque cette loi a été étudiée en commission par la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée. Certains élus ont interpellé à ce sujet le gouvernement. Alors, ce texte, en effet, il donne beaucoup plus de pouvoir aux forces de l'ordre et avec très peu de contrôle. Hein. Impossible, par exemple, de savoir qui est écouté et si ce sont pour de bonnes raisons. Tout cela n'est évidemment pas rendu public et n'est pas ordonné par un juge, les juges qui sont censés être indépendants ici en Côte d'Ivoire. Alors, la crainte, c'est qu'une loi comme celle-ci puisse être utilisée aussi à des fins politiques, notamment contre l'opposition. Et cette crainte, elle est d'autant plus grande qu'ici, comme vous le savez, Juan, nous sommes seulement à un peu plus de 3 mois de l'élection présidentielle.
Et on aura certainement l'occasion demain dans la Libre Antenne d'entendre des auditeurs sur le contenu de cette loi. Alors, Ignace nous disait, ce n'est pas la première fois que le pays, évidemment, adopte des lois, mais le pays a-t-il réellement les moyens aujourd'hui de faire appliquer cette loi antiterroriste ?
Alors, il parlait de moyens et concernant les moyens, tout dépend de quoi on parle en fait. Hein. En termes de budget, d'argent, la Côte d'Ivoire, elle a l'argent nécessaire pour éventuellement recruter et payer plus de policiers. La question, c'est plutôt celle des moyens humains, de la formation, du savoir-faire. Et là, effectivement, certains bons connaisseurs du secteur estiment qu'il y a désormais urgence à renforcer le secteur du renseignement. Urgence d'autant plus depuis les dernières menaces. Alors, certains estiment qu'ils sont plus d'hommes, mais surtout des hommes mieux formés, plus opérationnels, qui soient capables, hein, si on veut, de déjouer un attentat. Mais vous savez, ces services sont par définition discrets, on y a très peu ou pas accès, nous les journalistes. Difficile donc pour moi de vous dire si la Côte d'Ivoire a des renseignements aujourd'hui efficaces. Qu'on sait, en revanche, c'est qu'en la matière, le pays bénéficie en ce moment d'aide. D'abord, il coopère avec les pays voisins et notamment avec le Mali et aussi avec la France via la force française en Côte d'Ivoire. Cette force, elle lui apporte des renseignements. Elle doit également faire de la formation, former des policiers, des militaires ivoiriens à ce combat qui est nouveau ici à l'antiterrorisme.
Encore une question, Anna Sylvestre, sur la menace djihadiste en Côte d'Ivoire. Lancet, bonjour.
Bonjour Monsieur Gomez, comment allez-vous? Bonjour à Camille.
Mais à Camille Deloche évidemment, qui réceptionne vos questions et qui fait le lien entre vous, les auditeurs et la rédaction des RFI. Lancet, vous nous appelez de Rio de Janeiro, vous êtes au Brésil. Quelle est votre question?
Monsieur Gomez, bonjour. Je voudrais juste savoir sur ce sujet. Pourquoi l'ONU s'est envoyé des bataillons à la frontière de ces deux pays sans la résolution des Nations Unies?
Alors, Anna Sylvestre, on sait que le gouvernement a envoyé des soldats supplémentaires dans le nord du pays, hein, le long de la frontière malienne. On sait également que l'ONUCI a dépêché des casques bleus dans cette zone. A-t-elle mandat, l'ONUCI, pour déployer des hommes dans cette partie du pays afin de lutter contre les djihadistes?
Alors, a priori, oui, hein, les forces de l'ONUCI, officiellement, du moins, elles ne participent pas aux opérations de ratissage à la traque de djihadistes. Cela, ça se passe de l'autre côté de la frontière, hein, du côté malien. Ce sont les militaires maliens qui s'en chargent. Et ces casques bleus, ils n'ont pas non plus procédé à des arrestations. Officiellement, donc, il ne s'agit pour les casques bleus que de faire de la présence, de la dissuasion, et ainsi de protéger les civils d'éventuelles attaques. Protéger les civils, ces termes, ce sont très exactement les termes qui figurent dans la résolution votée en 2004 par le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. C'est bien le mandat de cette mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Et donc, dès lors que l'action des casques bleus dans le Nord reste dans ce cadre, une nouvelle résolution n'est a priori pas nécessaire, tout simplement.
Merci de toutes ces explications, Anna Sylvestre, correspondante d'RFI à Abidjan. 10h25 à Paris, il nous reste le temps de prendre une dernière question ce matin. Bonjour Pacôme.
Bonjour Juan.
Vous avez des questions concernant la situation tendue dans le sud algérien?
Effectivement, oui. La semaine dernière, dans le sud de l'Algérie, des violents centres arabes et berbères a coûté la vie à 22 personnes. Ce qui m'amène à poser deux questions. Quelle est l'origine des berbères? Et quelle est la différence qu'on peut faire entre berbères et arabes?
Oui, des violences communautaires d'une rare intensité, effectivement. Au moins 20 morts et une centaine de blessés. Bonjour Hassan Wali.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au grand quotidien d'Alger, El Watan. Vous avez eu l'occasion de faire de nombreux reportages dans cette région de Gardaïa. C'est un conflit qui ne date pas d'aujourd'hui. En tout cas, il n'a jamais été aussi violent. Expliquez-nous la différence entre ce qu'on appelle les arabophones et les berbérophones.
Au fait, rapidement, l'Algérie de manière particulière et le Maghreb, l'Afrique du Nord étaient berbérophones depuis tous les temps, et puis avec l'arrivée de l'islam, des populations commencent à être arabisées, et dès l'indépendance, le nouvel État a fait le choix d'armer l'Algérie au panarabisme. Donc il instaure la langue arabe comme seule langue officielle et pratiquée. Et du coup, une partie de la population berbérophone qui se trouve exclue du paysage intellectuel, linguistique et culturel du pays. Donc ça a suscité des tensions depuis l'indépendance. Mmh. Et avec ce qui se passe dans la vallée du Mzabarar, d'ailleurs, 600 km d'Alger au port du désert. C'est un vieux conflit historique entre le pouvoir central et cette région, parce que c'est une région berbérophone, mais surtout autogestionnaire, qui n'avait pas besoin de l'État, qui est un État qui était autoritaire, dont la volonté était de régenter toute la société. Donc il arrive là-bas, il n'arrive pas à soumettre cette population.
Mais comment expliquer qu'on en arrive à une telle violence? L'armée a été déployée sur place, l'armée qui a d'ailleurs récupéré de nombreuses armes, des bombes artisanales. Comment expliquer une telle rivalité entre ces deux communautés?
Au fait, on fait toujours l'erreur de réduire le conflit entre deux communautés, mais finalement qui servent de carburant à un conflit où se superposent beaucoup de questions qui sont d'ordre économique, qui sont d'ordre religieux, qui sont d'ordre économique et aussi de territoire. Il faut dire que l'État a laissé pourrir la situation là-bas. Il y a plusieurs appels, plusieurs interpellations des autorités, mais il n'y a pas eu de réaction. Comme vous le savez, il y a la région où s'est installé beaucoup de repentés, où des salafistes wahhabites prêchent de la haine, appellent au meurtre, l'État a laissé faire. Et surtout, il y a un autre élément, c'est que la région, c'est la route de la drogue, hein, qui vient de l'Afrique, qui vient de l'Ouest et tout. Et donc, les narcotrafiquants ont tout intérêt à déstabiliser la région. Ils jouent tout ça, et en plus, ajouter à cela les enjeux mafieux locaux qui engage jusqu'à des responsables jusqu'au centre, donc jusqu'à Alger, et il y a une superposition de conflits qui fait que c'est devenu inextricable et que c'est ce qui a expliqué la montée de la violence qu'on a connue la semaine dernière.
La semaine dernière, effectivement, avec au moins 20 morts et une centaine de blessés, et c'est vrai que les habitants dénoncent, comme vous le disiez, Hassen Ouali, le laxisme des autorités qui ne parviennent pas à endiguer tous ces débordements. Merci d'avoir été avec nous, Hassen Ouali. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien algérien El Watan. 10h30 bientôt à Paris. Dans un instant, le point complet sur l'actualité. Et dans 10 minutes, nous serons de retour. Nous parlerons de cette décision de la Côte d'Ivoire de rendre obligatoire l'école pour tous les enfants de 6 à 7.